Et oui, Rebelote, donc bienvenue à nouveau dans Tribune Foot ce matin. Eh bien, on va rester très étonné. On avait reçu le Jorky Ball des Ulysses il y a 15 jours. On va recevoir nos amis du club de foot de Brissimour, emmenés par une vieille connaissance, Bruno Pasco. Bruno, bonjour.
Bonjour Philippe.
Comment ça va
pour Ça va très bien, surtout quand on vient vous voir. C'est toujours avec plaisir.
Très bien. Alors, depuis combien de temps, j'allais dire à la tête du foot de Brice, hein, vous avez été joueur dans ce club naturellement, et après vous êtes passé de l'autre côté de la barrière?
On va dire que c'est la troisième fois que j'honore le poste de vice-président. Oh, ça doit bien faire plus d'une... Allez, si on ajoute le SBF et l'entente Brice-Limour, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce club, autant comme joueur que comme dirigeant.
Alors, ce qui est bien, c'est que Brice et Limour, c'était jadis des grands derbies. C'est un club qui a fusionné il y a quelques années, donc.
Ça fera, en 2009, 25 ans que la fusion a eu lieu entre les clubs de l'USL et de l'ESBF.
Alors, on en reparlera, mais ça répondait à une certaine nécessité, fatalement. Hein.
Forcément, puisqu'on voit qu'on a été dans le domaine des précurseurs, mais beaucoup d'autres clubs se sont structurés de la même manière.
Très bien, donc on pénétrera dans la vie de votre club. Hein. Alors justement, un club qui a une particularité quand même, c'est qu'il y a d'abord une équipe féminine. On avait reçu quelques jeunes filles il y a un peu plus d'un an, lorsqu'ils étaient déjà venus au micro de Tribune Foot. Et justement, la responsable de cette équipe féminine en ce moment, alors je veux dire son prénom parce que son nom il est très difficile à dire, alors il fallait que je m'entraîne, c'est Nolwenn. Bonjour Nolwenn.
Bonjour.
Donc responsable de la section féminine et ancienne grande joueuse de foot.
Oui, voilà. En fait, j'ai commencé en tant que joueuse à l'entente Brice-Limour, donc avec les garçons de Poussin à moins de 13 ans. Et ensuite, j'ai enchaîné en jouant donc, en catégorie féminine à Juvisy.
Ah oui, meilleur que le français. Hein.
Oui, voilà. Donc, voilà. Puis j'ai continué un peu, j'ai dû arrêter pour les études et j'ai repris ensuite à Rennes. Et aux États-Unis l'année dernière, et puis cette année je suis revenue dans le club d'origine, l'entente Brice-Limour.
Eh ben c'est bien, parce qu'on va on parlera un peu du foot féminin, justement de votre expérience aux USA, hein, parce qu'il y a une grosse demande pour le foot féminin, mais il y a encore des gros problèmes quand même pour pratiquer ce sport en France. Il n'y a pas des clubs partout, ça pose problème.
Voilà, il n'y a pas beaucoup de clubs, et les structures ne sont pas portées vers le foot féminin. Directement.
Et bien qu'on ait le Centre National de Foot Féminin de Clairefontaine, de on avait eu un des entraîneurs il y a quelques mois à ce micro, mais bon, ça pose encore beaucoup de problèmes.
Oui.
Très bien. Et puis, il y a aussi une particularité, c'est qu'il y a l'école des gardiens. Alors, on sait que les gardiens sont des gens un peu à part. Hein.
On
va en parler justement avec Patrick Fontine, donc le responsable de cette école. Patrick, vous dans le foot depuis combien de temps?
Bonjour d'abord, dans le foot depuis très longtemps, puisque j'ai commencé à jouer au foot à Limour en senior, parce que ma particularité aussi c'est d'avoir commencé en senior pour
Donc vous avez connu les vieux derbys Brice-Limour.
Voilà, j'étais même à l'occasion des premières créations sur le vieux terrain de Forges et les bagarres terribles entre ces deux clubs, c'était en 60...
Mais dans le bon sens du terme, hein, sportivement les bagarres. Hein.
Oui, dans le sens d'affrontement et de rivalité. Aujourd'hui le mot bagarre c'est...
Ah, d'accord, très bien. Donc on va naturellement pénétrer la vie de votre club, hein. On reviendra aussi sur un beau dimanche de foot, parce que il y a le ballon d'or aujourd'hui, il y a aussi naturellement les tirages au sort des groupes de l'Euro. Et puis tiens, je vais vous faire une petite surprise auparavant. Je vous avais promis deux belles interviews, hein, qu'on a eues donc cette semaine au prix national du fair play. Allez, on va écouter, ça doit vous rappeler de grands souvenirs. Un monument du foot, un monument du sport français, c'est Raymond Coppa. Hein. Alors, les tout jeunes, ça leur dit peut-être très furtivement quelque chose, et pourtant, ils ont tort. Hein. Il a été 45 fois international, 6 fois capitaine de l'équipe de France, ballon d'or et meilleur joueur de la Coupe du Monde en 58, 3 fois vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, c'était avec le Real de Madrid, hein, et 2 fois champion d'Espagne, et puis il a marqué en tout cas 75 buts en 346 matchs de ce qui était à l'époque la Division 1. On ne présente plus, donc naturellement, eh bien, ce monde et ce monument du sport français et du foot français qui est Raymond Coppa. Et vous allez voir, il a toujours gardé cette passion pour le ballon. Raymond, on y va. Raymond, pour l'ensemble de votre carrière, un prix national du fair play, je suppose que c'est quelque chose qui vous interpelle.
Tout à fait. Dans mon musée de footballeur, il y a une très très grosse place. Oui, effectivement, je suis très très heureux d'avoir reçu ce trophée. Et qui complète effectivement ma longue carrière finalement, puisque j'ai quand même fait 20 ans de professionnalisme. Mais j'ai toujours eu effectivement un grand respect pour les adversaires. Les arbitres, disons, même s'ils ne m'ont pas toujours protégé. Mais enfin, dans l'ensemble, je peux dire que j'ai jamais blessé un joueur. J'étais sorti une fois, c'est une anecdote, du terrain. C'était dans un match amical au Mans, puisque j'étais joueur du professionnel de SCO d'Angers. À un moment donné, l'arbitre, qui s'appelait Jeudi, je me rappelais toujours Jeudi, en plus on est jeudi aujourd'hui. Mais enfin, l'arbitre d'un seul coup me dit, mais sortez. Ah, du pauvre, c'est à moi que vous adressez. Oui, oui, sortez. Il m'a sorti du terrain, alors j'ai jamais su pourquoi. Voilà, c'est la seule fois que j'étais sorti d'un terrain de football par un arbitre.
Bon, vous auriez aimé être joueur professionnel de nos jours?
Aujourd'hui, oui. Moi, j'ai toujours été un passionné du foot, beaucoup moins pour le regarder. Mais même aujourd'hui, j'aurais aimé le jouer. Mais comme je le dis toujours à Michel Platini quand je le rencontre, je mets la vidéo. Ça fait 6-7 ans que je demande la vidéo, comme au tennis, comme au rugby. Parce que là, on aidera l'arbitrage, mais aussi on aura un football un peu peut-être plus propre.
Oui. Comment vous voyez les matchs? Vous les trouvez ennuyeux, fermés aujourd'hui? Les données tactiques sont encore plus importantes qu'à votre époque. Hein.
Mais n'attaquons pas trop le football actuel. Le gros problème, c'est qu'en France, actuellement, les bons joueurs partent à l'étranger. Et effectivement, on a quelques bonnes équipes, très peu, pas assez. Je cite surtout Lyon qui a cet avantage-là. Mais moi, ce qui importe, c'est de voir un football. Quand je regarde un match, c'est effectivement de voir un beau football. Mais faut-il en être capable?
Est-ce que vous avez l'occasion de revoir tous les anciens de 58 et ceux de votre génération, surtout de 60, 62?
Ça arrive. Ouais. Oui, tout à fait. On est un peu tous dans toute la France, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Ceux qui ont plus de 70 résistent, mais malheureusement, on a 4 disparitions sur 22. C'est pas si mal.
Et je crois savoir, vous avez joué très longtemps au foot, vous avez continué après, même parmi les équipes de vétérans. Hein.
Bien sûr, je me suis arrêté à 70 ans. Oui. D'ailleurs, j'étais content parce que cette anecdote que j'ai encore, c'est que ils étaient pratiquement bien souvent obligés de me frapper par derrière. Mais j'étais content. Quand d'ailleurs, je me retournais, je leur disais, je t'ai pas fait mal. Mais et en plus, ils étaient obligés de le faire. Mais le jour qu'ils ne font plus, j'ai toujours dit, c'est que je suis cuit.
Merci Raymond. Toujours autant passionné par le ballon. Donc Raymond Coppa qui a reçu le prix spécial du jury, hein, le prix Éric Tabarly. Raymond Coppa, ça rappelle des souvenirs à tous ceux qui sont encore plus anciens que nous. Hein,
bien sûr.
C'est Fontaine.
Oui, hein. Surtout 58, je crois. C'était ouais. Vraiment le déclic de l'équipe de France et le début de la Coupe du Monde de la télévision.
Ah, c'est ça. Ah, ben justement, ça tombe bien, vous parliez de télévision. Il y a eu aussi un confrère journaliste, quoi, hein, qu'on ne présente plus, dans le domaine du foot, Michel Drey, qui a aussi été récompensé par un diplôme d'honneur, hein, pour le prix donc, de la défense de l'esprit sportif. Hein. Il a reçu ce prix en même temps que François Artigas, un autre journaliste. Et Michel Drey, eh ben, il est aussi ravi de ce qu'il considère comme un prix sur l'ensemble de sa carrière. Alors, c'est la voix du tennis, c'était aussi la voix du foot. Il a été le plus jeune commentateur de l'histoire du foot, comme il nous l'a donc dit à l'issue donc, de cette réception. Michel Drey, un prix national du fair play, c'est une belle satisfaction?
Ben, ça fait plaisir parce que c'est la reconnaissance d'une carrière qui n'est pas terminée, puisque maintenant je suis encore conseiller à la présidence de France Télévisions. J'ai eu tellement de grands moments dans cette carrière de journaliste sportif qu'on a envie de remercier les champions parce que c'est grâce à eux qu'on a eu toutes ces émotions, grâce aux éducateurs qui nous ont accompagnés, grâce à France Télévisions pour qui j'ai été très fidèle. Merci. Voilà, ces moments forts, ben, on est heureux de les partager avec pas mal d'amis, avec plein de sportifs. Là, j'ai retrouvé Jo Mazo, Raymond Coppa. C'est une histoire du sport. C'est tout. Voilà, donc heureux pendant toutes ces années d'avoir partagé ces grands moments d'émotion.
Allez, le fait de ne plus faire d'antenne, il y a des regrets?
Pas du tout, parce que c'est moi qui ai pris la décision. J'ai souhaité arrêter l'antenne parce que à 60 ans passés, ben, faut savoir laisser la place. J'ai eu tellement de beaux moments que faut laisser la place aux jeunes, il n'y a pas de raison. Et puis, avant qu'on vous file un petit coup de pied aux fesses en vous disant « allez hop, dégagez », j'ai préféré m'en aller, mais c'est sans regret, parce que moi, j'étais pas un accro de l'antenne. J'ai toujours essayé de faire passer des messages, une espèce d'incitation au sport pour les jeunes, de leur donner l'envie de pratiquer ce formidable ce moment de vie, je veux dire, parce que l'école de la vie, je veux dire, le sport, c'est une école de la vie. Voilà, donc il n'y a aucun regret, au contraire, là c'est bien, il y a moins de stress, parce qu'il y a eu beaucoup de stress pendant cette carrière où il fallait commenter des fois pendant 5 heures, 10 heures, 11 heures, mais t'es arrivé de commenter une Coupe Davis pendant 11 heures d'affilée, bon, mais c'est au contraire que du bonheur.
Et vous avez été un des plus jeunes commentateurs de Coupe du Monde de foot en 70 avec Michel Drucker.
Exactement, alors c'est drôle parce que c'est une anecdote que je raconte souvent, on était les deux commentateurs, on était à l'époque tout seul, il commentait seul dans un match, moi aussi, et on a commenté chacun une grande demi-finale, lui a commenté Italie-Allemagne, moi j'ai commenté Brésil-Uruguay, et le jour de la finale entre le Brésil et l'Italie, que s'est-il passé? Nous étions tous les deux au poste de commentateur. Eh bien, il a commenté tout seul la première mi-temps, j'étais à côté de lui, j'ai commenté tout seul la deuxième mi-temps, on n'a pas eu l'idée de commenter à deux, alors que c'est arrivé deux ans ou trois ans après avec le fameux tandem Couder-Albaladejo, mais à l'époque, ben, on était seul, il n'y avait pas de consultant et on s'en sortait pas mal.
Justement, un petit mot sur les consultants, c'est une bonne chose aujourd'hui pour le commentaire sportif?
Oui, c'est une bonne chose à condition qu'ils restent dans leur registre, que le journaliste conserve toute l'initiative du reportage, qu'il dirige, il est là pour vendre entre guillemets, mais pour améliorer ce reportage, et puis le consultant, s'il reste dans son rôle, s'il nous donne les explications techniques, eh bien ça peut être un bon reportage. Et puis autre chose, il ne faut pas oublier que l'image est très importante, il ne faut pas être trop bavard à la télévision, il faut insister à la fin des matchs ou pendant le match sur le regard des champions, le regard des sportifs, le regard des athlètes, pourquoi il se passe tellement de choses dans leur regard, dans leurs yeux, que souvent ça vaut de bien belles paroles.
Très bien, merci beaucoup Michel et félicitations.
Ouais. Merci beaucoup. Merci.
Ouais, en tout cas, félicitations. Hein. S'il y a bien vraiment un prix du fair play mérité pour un confrère journaliste, c'est bien Michel Drey. Alors, la section de Brice Limourg, messieurs, la saison a commencé depuis la mi-septembre. Ça se passe comment actuellement?
Ça se passe bien. Il faut dire que bon, même si on a dénoté une petite baisse des licenciés, mais c'est général, puisqu'hier j'étais présent à l'Assemblée de la Ligue de Paris, et effectivement c'est un phénomène qui est ressenti un petit peu par tout le monde.
Comment on peut l'expliquer ça, Bruno? C'est quand même étonnant, parce que le foot, on a plus tendance à avoir trop de monde que...
Peut-être que l'année dernière, il y a eu l'effet Coupe du Monde qui nous génère toujours un apport de licenciés supplémentaires. Mais il faut dire que cette année, nous sommes quand même aux alentours de 340 licenciés, ce qui fait un peu plus de 23 équipes à gérer tous les dimanches, plus de 50 dirigeants et environ une douzaine d'entraîneurs diplômés. Donc on va dire que le club de l'Entente Brice-Limourg se porte bien. Au niveau résultat, nous sommes qu'au premier tiers de la saison et on fera les comptes à la fin de la saison.
Voilà. D'accord. Les matchs après les matchs. Etc.
Voilà. Et puis nous avons eu aussi le plaisir d'être labellisé au niveau de notre école de football en novembre 2007. Nous avons reçu le diplôme de la part des mains du président du district, ce qui nous a fait plaisir, puisque bon, c'est quand même le travail d'une équipe menée par Michael Petit, qui est notre responsable technique, qui a intégré le club il y a environ deux ans et qui a fait un énorme travail pour atteindre cette labellisation. Mais je pense que c'est le travail de tous les dirigeants et cette volonté depuis dix ans d'être toujours proche des jeunes et de leur formation. Voilà.
Ouais, justement, je le dis souvent à chaque club qui vient là tous les dimanches, mais votre vocation, c'est aussi avant tout d'être un club formateur.
Mais nous n'avons jamais perdu cette optique de formation des jeunes, ce qui nous permet aussi, au niveau du club, de pouvoir perdurer. Hein, et si aujourd'hui, j'ai avec moi Patrick Fontine pour la formation des gardiens, on a un peu pêché dans cette formation sur les cinq dernières années, et on le ressent à l'heure actuelle au niveau du groupe senior. Et donc, Patrick nous aide à pallier cette déficience. Et puis, pour nous, la formation, c'est toujours à terme certainement le résultat probant de notre club. Voilà.
Les joueurs donc, qui viennent essentiellement de Brive, de Limoux, ça ratisse beaucoup plus loin?
On commence à ratisser de plus en plus loin, puisque les clubs alentours, eux, ont des grosses difficultés. Hein. Il faut voir que maintes clubs que nous avons connus dans notre jeunesse n'existent plus. Et donc, le bassin de population de Brive et Limoux, c'est 10 000 habitants à peu près. Donc, nous avons... Si on fait le rapport, 350 licenciés, c'est à peu près 5% de la population qui joue au football à l'entente de Brice-Limour. Donc, non, et puis les villages environnants qui, eux, grossissent aussi, donc nous amènent et nous drainent de nouveaux licenciés.
Oui, parce que, bon, dans les clubs avoisinants, il y a Pécule qui fait le foot le dimanche matin,
oui,
il y a Forcéda, mais enfin, c'est pas.
Il y a Vaugrigneuse qui fait du foot en vétéran. Ouais, bon, c'est surtout des clubs avec seulement des catégories bien propres et pas la totalité. Il faut savoir que nous, on démarre du débutant jusqu'au super vétéran.
Alors justement, ça fait un créneau d'âge très 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 vaste, très large.
Ah ben, on démarre de 6 ans à ce que Morsan suive, hein. 75 ans, 73 ans, 73 ans le dirigeant. Dirigeant.
Mon copain, oui.
Voilà. C'est vrai que Yves Caru, notre dirigeant que tu as bien connu, à 73 ans et de temps en temps il tape encore dans le ballon. C'est vrai.
Ça c'est beau ça. Créneau d'entraînement, donc ça nécessite des créneaux finalement sur toute la semaine.
C'est non-stop. Les terrains sont occupés, en l'occurrence les infrastructures de la ville de Limours sont occupées du lundi au dimanche soir. Les infrastructures de Brice sont surtout utilisées pour les matchs de compétition sur le terrain d'honneur.
D'accord.
Et nous avons un petit terrain d'entraînement où les filles s'entraînent une fois par semaine avec un autre entraînement sur Limours et puis les vétérans.
Ah oui, donc vous dédoublez sur les terrains entre.
Oui, mais les infrastructures de Brice sont un petit peu restreintes et on a beaucoup de mal à gérer 40 gamins sur un plateau d'évolution et donc on préfère recentrer sur Limours, mais les installations de Limours sont surbookées.
D'accord, donc les résultats, on en parlera un peu plus tard. Il y a une équipe Fagnon. Parmi l'équipe Fagnon, ce sont des jeunes du club qui
alors,
font la plupart cette équipe Fagnon, ou alors il y a des.
La majeure partie des joueurs seniors, on va dire qu'il y a bien deux tiers des éléments qui sont issus du club. Il y a forcément des gens qui sont venus par la suite, mais on va dire que. Et l'optique du club, c'est à terme d'avoir une équipe senior avec des joueurs formés. Forcément, vous formez 200 jeunes en débutant, vous en récupérez une petite dizaine en senior. Mais au moins ces 10-là, vous les avez formés sur toute leur formation de football. Et au moins, vous avez l'espoir de les récupérer. Si vraiment il y a un élément que l'on dénote et qui sort un petit peu du commun, forcément on le dirigera sur des clubs mieux structurés et qui sont à des fins de formation plus poussées, telles que Bretigny, Palaiseau.
Vous avez des accords tacites comme ça entre.
Pas vraiment, mais on connaît les clubs qui travaillent bien. Et on aurait tendance à. On a de très bonnes relations avec le club des Ulysses, avec le club de Palaiseau. Il faut savoir qu'on a aussi des entraîneurs qui jouent à Palaiseau. Donc forcément, ça crée des liens, même s'il n'y a pas d'accord tacite dûment nommé.
Alors, vous avez aussi naturellement des différentes compétitions, des matchs. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un jour une équipe Fagnon à un bon niveau?
Il faut savoir qu'il y a deux ans, notre équipe Fagnon était en excellence, la plus haute catégorie départementale. Malheureusement, l'année qui en a suivi a vu la descente. Je pense qu'on aurait pu l'éviter, mais moralement, on n'était peut-être pas prêt et structuré pour pouvoir maintenir notre équipe Fagnon en excellence. Il faut voir que l'on rencontrait des équipes B de clubs qui jouent en CFA, tels que Sainte-Geneviève-des-Bois, Viry. Et là, on avait vraiment, il y avait un grand fossé entre nous et eux. Et ce fossé qu'on a pas encore comblé et on perd pas espoir, mais il faut savoir que c'est très très dur le football dans l'Essonne et notre club n'est pas encore prêt à pouvoir supporter une équipe Fagnon dans les hautes divisions. Mais bon, on a quand même eu une expérience, malheureuse soit-elle, une expérience en excellence.
Un bon parcours en coupe, par exemple.
Alors là, la coupe ne sourit pas souvent. Il faut dire qu'on tire toujours des grosses pointures. Et là-dessus, on va faire un vœu pieux, c'est de tomber un jour contre un parcours en coupe qui puisse nous permettre d'avoir de bons résultats. Mais c'est difficile. Très difficile.
Et les anciens, ils sont encore partie prenante du club. Beaucoup d'anciens sont restés dans le club, comme au niveau de l'encadrement. Je sais bien que bon.
Je dois dire que.
Ils ont changé de coin.
Mais bon. Je dois dire que quand on voit Patrick, quand on voit, quand on voit Monsieur Caru, quand on voit des gens comme ça, je peux vous dire que. Il y a monsieur Carlos Lopez aussi qui il y a monsieur Jean-Raymond Higonnet qui est le maire de Limours a été président de notre club pendant 2 ans.
Ça c'est une marque, c'est un
voilà
site, hein.
C'est des gens qui sont quand même issus aussi bien du CRU de l'USL l'Union Sportive Limourienne ou de l'SBF l'entente Brice Soufforge à l'époque qui était on rencontre encore pas mal de vieilles personnes, enfin de vieilles dans le club, j'entends dire. Ce n'est pas
péjoratif.
Non, c'est pas péjoratif.
Ouais,
non,
ouais. Alors, justement, cette école des gardiens de but, Patrick Conti, comment est-elle venue ? Parce que c'est original quand même.
On ne peut pas dire.
C'est original quand même. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont une école de gardiens spécialisée dans les gardiens.
Je préférais que l'originalité vienne de la spécificité de ce que j'ai voulu mettre en place.
D'accord.
Parce que je crois que tout le monde a bien compris maintenant dans le football qu'il est nécessaire pour un poste particulier d'avoir une préparation particulière. Le problème, c'est que j'ai compris qu'il n'était pas suffisant de lancer des ballons à des jeunes qui plongent et qui sautent et que ce n'était pas suffisant. Je veux dire par là que arrêter un ballon, attraper un ballon, se rouler par terre et faire des arrêts, c'est assez facile. Avec des jeunes souples qui en volent, on y arrive. Par contre, faire d'eux et faire de ça un gardien de but, c'est plus compliqué. De par mon métier, je travaille depuis 40 ans dans l'éducation nationale et c'est intéressant d'en faire une petite parenthèse parce que j'ai travaillé pendant 40 ans avec les enfants les plus difficiles des collèges. Il m'a bien fallu apprendre à faire autrement et faire autre chose parce que refaire un peu plus de la même chose, ça menait à ce fameux échec scolaire. Et puis j'ai constaté depuis une quinzaine d'années que j'entendais parler partout de mental. Le mental. Maintenant c'est le mental. Le fourre-tout, on parle de mental. Il faut une préparation mentale. Il faut des préparations. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire?
C'est vrai que dans le sport, on le parle régulièrement. Quoi.
Voilà, maintenant surtout. Plus que du temps de Raymond Coppa. Bon, alors je me suis posé un peu la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière ça et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et j'ai cru comprendre en liant mon activité professionnelle, où j'ai toujours mis par une préparation pédagogique particulière l'enfant avant l'élève. C'est-à-dire que la personne qu'il est était plus importante que l'élève que j'avais dans ma classe. Et je me suis dit, mais au niveau des gardiens de but, est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre la phrase essentielle d'un des pédagogues qui m'a formé, qui s'appelle Freinet et puis Houry, c'est-à-dire les gens qui sont aux fondations même de cette pédagogie et qui me disaient, dans une classe, il y a une chose à retenir, c'est qu'on ne laisse pas son inconscient dans le vestibule. Mais je me suis dit, mais le gardien de but, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai joué gardien de but. Quel but j'ai pris? Comment j'étais quand j'ai pris ces buts ou comment j'étais quand j'ai réussi des arrêts? Et je me suis aperçu que quelque part, moi non plus, j'ai jamais laissé ma personne dans le vestiaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, le gardien, c'est un homme, c'est un sujet. Le gamin gardien, c'est un enfant. Il rentre sur le terrain avec tout son potentiel, mais attention, potentiel qui peut à un moment donné le faire grandir, mais aussi le faire échouer. C'est-à-dire que est-ce qu'il ne serait pas intéressant, à un moment donné, d'accompagner les joueurs gardiens sur le terrain, au-delà du plongeon, pour leur faire comprendre que le geste qu'ils viennent de réaliser était peut-être un geste qui s'inscrivait dans une histoire. Une histoire qu'on ne peut pas revivre, qu'on ne peut pas refaire. Par contre, sur laquelle on pourrait peut-être appuyer en créant des outils. Le but que je voudrais monter à Limour, c'est justement ça. C'est créer des outils pour transformer ce concept de mental, qui est un mot, en un concept construit, bâti. Dans un premier temps, on travaille sur le mental, mais on le travaille en accompagnant. Et tout à l'heure, je pourrais, si j'ai le temps, donner quelques exemples.
Donc vous êtes omniprésent, quoi. Vous parlez régulièrement aux jeunes.
J'accompagne. Le mot juste, c'est accompagner. Voilà. Je ne suis pas là pour montrer, je ne suis pas là pour démontrer. Je suis là pour accompagner. Accompagner, ça veut dire qu'à un moment donné, dans la vérité du geste, il y a une histoire. Dans la vérité de l'erreur, parce que c'est là-dessus aussi qu'il faut compter. Quand on voit l'actualité actuelle du football, et notamment les derniers matchs de l'équipe de France, où on a vu ces gestes manquer. Alors, derrière tout ça, c'est pas un hasard, c'est une histoire. Quelle sera l'analyse faite par les spécialistes de ce qu'on a vu à la télévision récemment par rapport à un gardien de but? Ça, c'est un autre problème. Ouais. Ceci dit, ça se construit. Ça se construit dès le plus bas âge. Et c'est ça le travail de Limour que je voudrais faire, c'est-à-dire amener l'enfant avec une personne à côté de lui pour comprendre que sur un arrêt qu'il sait faire des dizaines de fois à l'entraînement, que le jour J, au moment T, il ne l'a pas réussi. C'est donc quelque chose est venu parasiter son action. Et ce parasitage, c'est par les lumières, c'est par les spectateurs, c'est quelque chose de son histoire qui fait que dans un poste particulier qui est celui du gardien de but, ben c'est pas si simple d'avancer comme ça alors qu'on est le premier lanceur. On est le dernier rempart.
On est un deuxième libéro maintenant, pratiquement, hein, avec l'évolution du foot.
Et quand on analyse simplement ces deux mots-là, premier lanceur, dernier rempart. C'est pas simple. Quelle est votre position? Quelle est la position du gardien dans la fratrie? C'est l'aîné? C'est le cadet? Il est au milieu? Tout ça, c'est dans son histoire. Et c'est pas quelque chose qu'on doit laisser au vestiaire. Alors ça, c'est un point important. Ouais. Accompagner les jeunes et en ce moment les adultes. Et je crois qu'on l'a déjà fait depuis quelques temps. C'est les adultes avec lesquels je travaille, avec lesquels je peux aller plus vite, constatent déjà que cette espèce d'accompagnement et de parole où on met en mots des gestes ratés, souvent, c'est plus important, fait que quelque part des déclics se produisent et ces déclics vont jusqu'à modifier leur façon de jouer.
Ah, c'est bien, ben vous allez avoir beaucoup de monde hein, qui va demander à venir vous travailler avec vous. Ça se concrétise comment alors une séance?
Ben voilà, c'est ça le point important, c'est-à-dire que c'est des outils. Ouais. Construire des outils. Et là, j'expliquais par exemple tout à l'heure en venant, parce qu'on en parle tout le temps, c'est une passion, et on ne peut pas prendre la voiture sans parler minutes du football.
Le sport, c'est une affaire de passion, tout de suite.
Vous voyez, par exemple, l'idée essentielle aussi, c'est que créer un collectif. On dit, vous êtes un groupe, vous êtes une équipe, mais ça, ce sont des mots, ce sont des concepts. Moi, je cherche à créer, à construire du collectif. Et dans l'équipe des gardiens à Limours en senior, il y avait un souci, c'est qu'ils étaient 6 et il n'y avait que 2 postes. Il fallait bien, quelque part, que les autres puissent adhérer et rester.
C'est l'éternel problème. Voilà. C'est comme un gardien remplaçant sur un mondial, quoi. Il faut qu'il s'intègre à l'équipe.
Donc il faut créer des outils de telle sorte que ce groupe soit plus fort que l'individu qu'il représente à un moment T qui a été choisi par l'entraîneur, qui est le gardien numéro 1 aujourd'hui ou le numéro 2. Sauf que les autres sont là. Alors, vous me dites comment on fait? Déjà, que s'arranger pour que le dimanche, même ceux qui ne jouent pas, marchent à côté de celui qui joue dans l'échauffement, dans la préparation, dans l'accompagnement. On est là. Et ils m'ont déjà dit, c'est très fort, qu'à un moment donné du match, quand ils se sentent un peu perdus, leur regard ne va pas vers l'adversaire. Ils nous cherchent. D'accord. Ils cherchent les autres. Ils se cherchent. Mm-hmm. Comme les autres sont là, par une présence d'abord, quelque part, ça va, j'espère, garder au club ceux qui ne peuvent pas jouer tous les dimanches et en même temps les renforcer, les faire plus forts. Parce que vous êtes une équipe, les gars, vous êtes plus forts, allez, mental. Non, c'est pas suffisant. Il faut que ça se bâtisse, ça se construise. Mon travail, c'est de mettre en place des outils. Mm-hmm. Par exemple, un exemple très rapide, le Barthez d'or. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Barthez d'or? Eh bien, figurez-vous que lorsqu'on a fait un entraînement où tout le monde s'est bien démené, ou un match le dimanche, le mercredi, quand on se retrouve à la fin d'entraînement, il y a un rituel. Et quand on dit rituel, on dit groupe. Le rituel fait qu'on s'arrête, on prend notre temps, et on regarde ce qui a été fait par les uns, par les autres. Et à un moment donné, les 10 personnes qui sont là décernent pour la semaine le Barthez d'or. Alors c'est une petite figurine qu'on a peinte, mais symboliquement, ce Barthez qui... J'ai choisi Barthez parce qu'il fallait une figure emblématique, qui circule entre nous, et quand même un joueur m'a dit, mais moi je l'ai gagné, c'est rien, sauf qu'il a passé la semaine sur ma cheminée et sur ma télé. Et aujourd'hui, je le rends, je le transfère. C'est très important. Et dimanche dernier, on a eu un match difficile en senior, où le gardien avait pour rôle, dans sa partie mentale à lui, de gérer le stress de la violence qui régnait un petit peu dans l'échange des joueurs. Il est resté à sa place, il s'est avancé, il a calmé, et je crois que tout le monde l'a reconnu dans le club, il a été celui qui a pu, par son comportement, alors que c'est quelqu'un qui est un peu choubouillant, calmer les esprits sans rien dire et sans rien faire, ni même sans aller s'agripper par le maillot pour séparer. Il n'avait pas besoin de ça, il avait simplement qu'à transférer du calme et de la présence qui, quelque part, a ramené, à un moment donné, du calme. Eh bien, mercredi dernier, à l'issue de l'entraînement, on n'a pas remis le Barthez d'or à celui qui a sauté le plus haut, qui a plongé le plus loin, mais celui qui, par son comportement, avait apporté un plus dimanche dernier, et il a, cette semaine, le Barthez d'or sur sa cheminée.
D'accord.
C'est ça, le collectif, c'est créer des
outils
comme
ça. Mais vous les prenez à part, vos entraînements, à part des autres joueurs, quand même, il faut entraîner à part ou...
Ah oui, le clan... club des gardiens de but, c'est un club à part. Vous me donnez des outils, je vous en donne un qui est très fort dans le phare. C'est le AK.
Alors,
vous allez me dire, le AK, c'est le rugby, c'est la Coupe du Monde. Pas tout à fait. On s'est posé la question, comment fédérer ce groupe au-delà des différences de niveau? Parce que les différences de niveau, elles existent. Eh bien, on a cherché, on a sélectionné une quinzaine de gestes essentiels du gardien de but, de la prise de balle, de la marche en avant, de l'arrêt en l'air. Et on l'a mis en scène. On en a fait une petite scénette qui dure 3 minutes, où les uns et les autres, alignés un petit peu à l'image des joueurs qu'on avait sur le terrain de rugby, mettent en place ce AK. Et ça, je peux vous dire que lorsque je donne le signal du AK, ça se met en marche et c'est une cérémonie. Et si à un moment donné de cette cérémonie, pour X raisons, il y a une erreur de fait par l'un ou par l'autre, le groupe, vigilant à ce qui se passe, accompagne celui qui a fait l'erreur, mais celui qui a fait l'erreur, il sait qu'il est au milieu du groupe. Mmh. Et ce AK qui m'a paru important, mais au-delà de ce qu'on pouvait y mettre comme violence agressive, j'ai compris qu'il y avait un petit peu d'agressivité, on l'a vu à la coupe. C'est pas le but, là. Le but, c'est de fédérer un groupe qui, à un moment donné, au travers d'un geste collectif, va soutenir, aider et porter celui qui est en difficulté. Mmh. Alors, notre AK, ben, quand je sens que l'entraînement est un peu difficile, je donne un coup de sifflet. Messieurs, c'est l'heure du AK. On se met en ligne et pendant 3 minutes, on se reconditionne et on se remet en position. Ça, c'est encore un outil.
D'accord. Ça fait combien de temps qu'existe cette école, cette spécificité de l'école du gardien de but ?
Je vais dire, depuis 18 ans, je l'ai mis en place tout seul. D'accord. À Limours, à une époque où on ne parlait pas de poste spécifique et ni de mental. Mm-hmm. Mais bon, après, il a fallu changer, faire autre chose, et ça a évolué. Mais maintenant, comme c'est devenu, effectivement, je crois qu'une une obligation dans chaque club, là, je dirais que depuis 3 ans, on m'a demandé de revenir un petit peu au club pour essayer d'aller chercher quelque chose dans ce poste-là.
Oui, parce que c'est vrai que c'est un poste qui a énormément évolué. Hein. Il y avait eu une émission avec un des responsables du comité d'Île-de-France de foot du district, des éducateurs, qui avait fait un thème sur les gardiens. Aujourd'hui, le gardien, c'est un deuxième libéraux, c'est un poste qui a considérablement changé, même dans ses dégagements, même dans ses relances. C'est plus du tout la même époque que qu'il y a les années 50, 60.
Tout à fait.
Hein, ça, c'est un signe aussi.
Moi, je me vois, par exemple, j'étais un gardien physiquement plutôt moyen, moyen, 1m75, 60 kilos. J'ai pas fait une carrière sur mon physique. Je l'ai fait sur le mental. Mm-hmm. C'est ça aussi. Mm-hmm. Pourquoi moi, chétif, je le reconnais, sans expérience, j'ai pu faire une carrière honorable,
plus qu'honorable,
dans les buts de l'USL, parce que j'ai essayé de me dire, à un moment donné, une balle, ça peut s'arrêter. Elle peut toujours s'arrêter à partir du moment où je mets les mains dessus. Seulement, attention, qu'est-ce qui va venir polluer mon arrêt ? Eh bien, c'est l'émotion, c'est la panique, c'est la peur, c'est les autres, c'est l'environnement. Dépolluons tout ça et laissons-moi, face à mon geste que je fais d'une façon répétitive à l'entraînement, eh bien, faisons-le au moment T, au match précis. Et à ce moment-là, les erreurs diminuent parce que, quelque part, on a dépollué le mauvais. Et quand on parle d'actes manqués dans la vie, les psychanalystes, parce que ça aussi, je suis entré dans ce domaine-là, il fallait parler mental, il fallait soi-même faire un chemin. Le chemin de la psychanalyse, je l'ai fait aussi pour comprendre quels étaient effectivement ces espèces de moments où la personne va au-delà de ce qu'elle montre pour représenter ce qu'elle est. Eh bien, le gardien de but, c'est ça aussi, à travers son acte manqué, son geste manqué, point de suspension, et s'il nous disait quelque chose de son histoire. Vous savez, quand on fait un arrêt aérien, ce qui est peut-être l'arrêt le plus abouti d'un gardien, c'est-à-dire qu'il faut quitter le sol, il faut évaluer le ballon, il faut aller cueillir une balle, il faut aller s'exposer dans les airs, il faut retomber, il faut retrouver ses bases, retrouver ses assises. Mais ça rappelle plein de choses de la vie, au-delà de l'arrêt aérien. Plein de choses de la vie. Et vous remarquerez, quand vous regardez les matchs actuellement, c'est encore une des plus grandes difficultés dans le geste du gardien. Hier encore, dans la dernière journée, j'ai vu des fautes énormes. Je ne veux pas parler de ce qu'on a vu l'autre jour à l'équipe de France, mais des fautes énormes parce que là, le gardien, il est ailleurs. Il est en l'air, il est seul dans un monde aérien, bousculé, gêné, et il faut qu'il s'impose. Il faut qu'il arrive au tête-à-tête, au face-à-face. Tout le monde n'est pas capable de faire un face-à-face. Tout le monde, ça se travaille de face-à-face. Pas ballon à ballon, hein. Mais homme à homme,
bien sûr.
Joueur à joueur.
Ah oui, c'est là que ça se gagne, hein. C'est ou l'avant-centre ou le gardien qui gagne le face à face.
Je crois que c'est du mental, ça.
Oui, bien sûr. Et justement, c'est ce qui explique aussi qu'on ait des gardiens un peu, je dirais, atypiques dans leur personnalité. On en prend Barthez, Jeannot, ce sont des gardiens un peu atypiques, c'est le poste qui veut ça. Hein.
Ce sont sûrement des personnes atypiques aussi.
Bien sûr.
Que je ne connais pas, que je ne me permettrai pas de juger. Mais certainement, au fond d'eux, le sujet, comme diraient les psychanalystes, le sujet gardien est sûrement un sujet atypique aussi.
En tant que cas, vous avez parlé très bien, ça va susciter des vocations, ça. Alors, il y a aussi une deuxième particularité, c'est l'équipe féminine.
Oui, voilà.
Hein, il y avait eu des jeunes filles qui étaient venues il y a quelques mois, c'était il y a un an et demi, je crois, à ce micro, nous en parler. Aujourd'hui, elles sont combien, ces jeunes filles dans le club?
Donc en fait l'équipe a 3 ou 4 ans d'âge. Mmh. Et donc aujourd'hui on compte 17 licenciés. Et donc c'est la première saison que l'on fait à 11 en fait. Donc les saisons précédentes c'était du football à 7. Mmh. Et cette année on a décidé de passer à 11.
17 pour 11, ça fait pas un peu juste pour l'ensemble d'une saison?
Un petit peu. Ouais. Un petit peu. C'est vrai que s'il y a une blessée, donc ça réduit l'effectif et donc mais dans l'ensemble les filles sont motivées donc bon, on arrive à faire les matchs quand même.
Elles viennent d'où vos filles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs dans la région, hein, je crois qu'il y a Arpajon.
Il y a Arpajon, il doit y avoir le Val d'Orge, Orsay.
Oui.
Donc là les filles donc viennent principalement de Brice, de Limours. Il y a également Chevry, oui, donc près de Gif. Et là on a donc on a récupéré des filles de Breuillet, donc qui est quand même un petit peu plus loin que donc le bassin de Brest-Limours.
Et vous arrivez à avoir des matchs réguliers parce que ça doit déplacer quand même du monde, ça doit aller loin faire les matchs, il n'y a pas beaucoup d'équipes.
Oui, en fait, donc cette année, donc pour championnat 11, on est en promotion de ligue, donc on a des clubs dans le 91, dans le 77 aussi, donc on peut aller jusqu'à Vitry. Enfin, hier, on était à Boissy-Saint-Léger, donc ça fait quelques gros déplacements en région parisienne.
Oui, ouais, parce que la difficulté d'une jeune fille qui fait du foot, je crois jouer jusqu'à 14 ans en mix, et après, ou elle a un club et elle continue, ou elle n'a pas de club et elle fait un autre sport, quoi.
C'est ça. Bah, moi, ce qui m'était arrivé, j'avais fait... parce qu'on peut avoir une dérogation pour rester jusqu'en moins de 13 ans, faire 3 ans moins de 13 ans, et donc après, il fallait trouver un club.
Ouais.
Et dans le club, il y avait Orsay, voire Montigny le Bretonneux dans les Yvelines.
Oui.
Donc ça, il y a pas beaucoup de clubs et donc ça demande un investissement supérieur, de par même par rapport aux parents pour les trajets. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Faut vraiment le vouloir, être motivé pour trouver un club qui est les structures au niveau féminin.
Quoi. Et pourtant il y a une demande de plus en plus importante.
Oui, c'est toujours pareil par rapport aux Coupes du Monde. Il y a des afflux qui arrivent.
Les filles sont tout le temps passionnées sur une grande compétition.
Mais je pense que ça se développe de plus en plus. Ouais. Mais je pense que le travail aussi de la fédération permet aussi d'améliorer les structures et d'essayer de développer le football féminin. Qui est un peu en retard par rapport au football masculin. Donc ça, je pense que en voyant l'évolution du football, les filles se disent, voient cette évolution et se disent que ça peut valoir le coup de s'investir dans le foot, enfin de jouer et de s'investir dans le football féminin. En fait.
Le fait qu'il y ait le centre national de foot féminin sur Clairefontaine, c'est un avantage pour vous sur le terrain.
Nous directement, on voit pas vraiment les effets du centre. Enfin, c'est intéressant de savoir qu'il existe, parce qu'il y a une formation de qualité et de pouvoir emmener les filles si ça les intéresse. Mais directement, par les matchs, il n'y a pas de lien direct. En fait.
Est-ce que le regard a changé aujourd'hui des gens sur le foot féminin? Par exemple, les gens qui viennent dans le public, il y a une dizaine, quinzaine d'années, c'était un peu un regard moqueur. Aujourd'hui, on regarde un peu le foot féminin différemment.
Oui, je pense qu'on le regarde différemment. Enfin, moi, ce que j'essaye, par rapport à ce que j'ai appris avec, dans mon club à Juvisy, avec des filles qui jouent en équipe nationale, comme Minuret Bégué, ou même les gens que j'ai eus en sélection, comme Gérard Prêcheur, qui m'ont appris donc à mettre le collectif, les qualités individuelles, techniques, au service du collectif. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire dans l'équipe, c'est de réappliquer ça. Et en fait, on s'aperçoit que les équipes féminines sont beaucoup plus techniques.
Oui. C'est un foot plus technique.
Voilà, et donc j'essaye de faire de créer en fait le collectif, de fluidifier le jeu. Donc, et je pense que ça, c'est un aspect qui doit être plaisant à voir pour les spectateurs. Et donc c'est en ça, je pense que le regard a changé. Quoi.
Alors vous avez joué aux USA. Là-bas, c'est une autre dimension, quoi. Rien à voir avec le foot féminin en France. Hein.
Oui, c'est pas pareil. J'allais dire les infrastructures.
Ouais,
moi, j'étais sur un campus universitaire. Les infrastructures Donc, j'étais à Atlanta et donc les infrastructures étaient celles des Jeux Olympiques.
Ah oui, d'accord.
Donc, c'est différent. Il y a plus d'importance qui est donnée. Le sport est beaucoup plus reconnu. Le football féminin, donc le soccer là-bas est beaucoup plus reconnu. Et c'est vrai que c'est. Il y a tout un environnement autour.
On peut en vivre là-bas carrément, ce qui n'est pas le cas dans le pays. Hein.
Oui, voilà. Je crois que c'est un des pays où le football féminin était professionnel. On peut en vivre.
Et donc, ça sera peut-être gagné le jour qu'il y aura un grand match en prime time sur une grande chaîne de télé. Là, on pourra dire que le football féminin est entré dans les foyers.
Mais je pense que. Il y avait la Coupe du Monde qui était diffusée en août. Mais bah, je pense que de toute façon, dans tous les sports féminins, je pense que c'est les résultats qui amènent les diffusions télévisuelles. Donc bientôt, à mon avis.
Bientôt, ça va arriver, ça.
Oui, je pense. Bah, là,
Aussi peut-être une équipe de France un peu plus compétitive.
Oui, mais justement, je pense que le centre de formation de Clairefontaine va amener les filles à jouer. Enfin, déjà, la formation en elle-même va permettre aux filles d'améliorer leur performance individuelle et aussi de créer le collectif qui est avec. Les automatismes, et je pense que l'équipe de France devrait améliorer les résultats pour pouvoir se qualifier pour une prochaine Coupe du Monde. Donc moi je suis confiante à ce niveau là.
Alors on a parlé du mental chez les gardiens de but, est-ce que c'est plus difficile de gérer une équipe de filles qu'une équipe de garçons, est-ce que hors football?
Non, je pense que on est tous des êtres humains, donc la gestion est.
Il y a une psychologie, une approche différente, non? Je suis tombé un jour sur un entraîneur de basket qui m'a dit que moi je préfère gérer des garçons que des filles dans une équipe.
Pour l'instant, j'ai pas entraîné de garçons, à part des jeunes. Et je pense que les jeunes, des poussins, 9-10 ans, sont quand même. Il y a un aspect différent des féminines. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect psychologique à prendre en compte. Mais dans l'ensemble, ça va. Bon, pour l'instant, c'est des adultes. Donc peut-être que la compréhension se fait mieux, pour ma part. Donc. Non, ça se passe bien et
on conteste pas trop l'arbitre chez les jeunes filles comme chez les hommes, quoi. C'est pareil, quoi. C'est les mêmes.
Non, je pense qu'il y a moins de contestation. Ouais. Enfin, peut-être on ressent toujours, s'il y a une injustice, mais elle est moins contestée directement.
Elle est plus contenue, intérieurement. Ouais. D'accord. Les résultats sont bons pour l'instant. Vous êtes une entraîneur satisfaite.
Oui, pour l'instant, vu que c'est la première année à 11, on essaie plutôt de bâtir l'équipe, améliorer la technique, et bâtir le collectif. Et puis on verra pour les ambitions futures là. On essaye de. C'est plus une année d'expérimentation. Et puis les résultats sont, ma foi, corrects. On a gagné.
La tranche d'âge, elle est.
Donc on a des une ou deux licenciés moins de 16 ans. Et sinon, c'est plutôt dans la vingtaine d'années. Et on a donc la gardienne, qui est une mère de famille. Donc,
qui est l'école de gardiens.
Tout à fait, c'était un grand challenge. Intégrer la gardienne de l'équipe féminine au groupe des gardiens de but. Et tous les mercredis, se passe très bien, là aussi.
D'accord.
Elle fait partie du groupe.
Bruno, c'est complet, ou est-ce que vous pouvez encore prendre des jeunes ou des futurs pratiquants?
Disons que nous, au niveau des infrastructures, c'est ce qui nous bloque un petit peu. Il faut savoir que là, on arrive pratiquement à saturation de l'utilisation des...
C'est l'éternel problème, ça.
Voilà, c'est l'éternel problème. Donc effectivement, on voudrait bien prendre, mais prendre pour avoir des licences supplémentaires et ne pas pouvoir faire jouer les enfants ou les joueurs ou les adultes, ça nous paraît très difficile. Là, il faut dire que quand on était venu vous voir en 2000, on était aux alentours de 360 licenciés. Bon, on a toujours réussi à garder, on est monté aux alentours de 400, mais bon, c'est très difficile à gérer au niveau des plannings, de l'utilisation des terrains, et puis aussi au niveau des bras pour encadrer, puisque là, vous voyez, on est quand même plus de 50 personnes, mais s'il y avait encore des équipes supplémentaires, il faudrait d'autres bras, et là, je pense que nous, à l'heure actuelle, on n'est pas capable de pouvoir, même si dans la région de Limours, nous sommes un des grands clubs, puisque aux alentours, il n'y a guère que les Ulis, nous avons beaucoup de difficultés, et nous avons besoin de bras autour de nous pour pouvoir faire fonctionner tout ça.
Il faut savoir que des bénévoles, quoi, comme dans la plupart des clubs.
Bien sûr, bénévoles qui sont toujours les bienvenus. Mais je me dis que si on ne va pas les chercher quand ils sont sur le bord du terrain, le papa ou la maman, puisque tout le monde est utile, que ce soit pour prendre un drapeau de touche ou pour faire un gâteau pour le goûter, tout le monde est utile au club. Et ça, on a su générer cette volonté, et on n'est pas déçu, puisque bon... plus de 50 personnes pour nous entourer, c'est quand même bien. Même si c'est pas assez, c'est quand même bien. Et je tiens à les remercier, à les féliciter. Et ça, c'est le leitmotiv de notre président, M. Gilles Genest, qui lui est toujours à la recherche de futurs bras. Et on a un message que les entraîneurs font passer auprès des parents. N'hésitez pas à prendre un drapeau de touche, n'hésitez pas à faire un lacet, un petit bout de chou qui n'arrive pas à mettre sa chaussure, n'hésitez pas. Puisque ça aussi, ça fait partie du rôle du dirigeant.
Bien sûr.
Et, non, là, je pense qu'à l'heure actuelle, on est au niveau du nombre d'adhérents. moment, on est pratiquement au maximum.
En tout cas, pour les filles, nous, on est preneuses. Hein. Voilà, si les filles sont motivées par le football, n'hésitez pas à venir, il y a une bonne ambiance. Et...
Le prix de la licence, c'est de combien de cotisations? Parce que c'est important pour les parents. Ouais, alors, c'est combien à peu près?
En fonction des catégories, ça oscille de 5. Ça va de 80 à 120 euros pour les adultes. Hein. Tout le monde paye sa licence.
Bah oui.
Puisqu'il faut savoir que nous avons quand même un budget annuel aux alentours de 65 000 euros, c'est pas rien. Il faut savoir que nous avons à peu près une dizaine d'entraîneurs rémunérés. Donc, ça, c'est aussi le coût de la formation, hein, puisqu'il y a une formation qui, à partir du moment où elle est inculquée par des gens qui ont des diplômes, mais forcément, ça a un coût. Et ce coût, on le ressent dans le budget du club, mais si vous voulez on préfère mettre une grosse partie de notre budget dans cette formation plutôt que de faire comme certains clubs, aller payer quelques mercenaires qui viennent pour une ou deux saisons et qui font graviter le club à haut niveau, au niveau senior, et puis bah, derrière il n'y a plus rien et ces clubs-là s'éteignent assez rapidement. Il faut savoir que c'est pas viable à long terme.
Y a des tournois, des rendez-vous annuels?
Alors nous avons toujours notre sempiternel tournoi de l'école de football le 1er mai, hein, que tu as peut-être connu toi Philippe, si tu te souviens. Et puis nous avons aussi notre tournoi en salle au mois de février, hein, un tournoi en salle vétéran, le challenge Yves Caru. Et le lendemain nous avons le tournoi en salle de l'école de football aussi. Donc ça c'est en février, au 1er mai donc l'école de football à l'extérieur. Et puis souvent au mois de juin nous organisons un tournoi 13-15 sur deux jours, avec l'année dernière je crois le club vainqueur était sur en catégorie 15, ça devait être je me souviens plus, c'était où les Ulysses, ou enfin les Ulysses viennent souvent glaner chez nous des tournois. D'accord. Mais bon, ça fait partie de notre partenariat avec eux, puisque c'est vrai que on échange nos équipes au cours de ces fameux tournois de fin de saison qui sont l'occasion de nous tous nous retrouver, hein, et puis de partager les souvenirs de la saison. Bien et sûr. Puis de redémarrer avec une nouvelle envie, hein, même si des fois c'est pas facile, il faut insuffler de nouveaux élans, mais chez nous il n'y a pas de problème, hein, c'est l'occasion de se retrouver et de faire un petit peu la fête, puisque oui, il y a aussi ça, cette partie festive au sein du club, hein, il y a encore une quinzaine de jours on était autour d'un cassoulet tous ensemble pour...
C'est comme ça qu'on gagne les matchs à l'extérieur.
Voilà bien sûr.
Alors justement, on parlait du fair play tout à l'heure, il y a aussi une notion de fair play dans un club. Quand on est éducateur, il y a des valeurs à faire naturellement. Ressortir.
De toute façon, nous y avons été obligés par la demande de labellisation de notre école de football, où il y a eu un règlement intérieur qui a été instauré. Ce règlement est affiché à l'entrée des vestiaires. Alors, c'est pas toujours facile de le faire appliquer. Il faut savoir que nous vivons dans une société où malheureusement, c'est très difficile, et on le ressent aussi dans le football et dans le sport. Donc, à nous d'être les garants de ce règlement intérieur, aussi bien pour nos jeunes joueurs que pour nos anciens, nos adversaires. C'est très très difficile, mais c'est une chose à laquelle on est très attaché au sein du club. On n'a pas le droit de faire ce qu'on peut voir à l'heure actuelle sur les terrains. Le discours du président et du bureau sont intransigeants à ce niveau-là, et c'est très souvent qu'on reprend. Nous avons même instauré des travaux d'intérêt généraux.
Hein, ça se fait dans beaucoup de clubs,
voilà,
c'est bien ça.
Puisque bon, malheureusement, nous sommes assez souvent confrontés aux avertissements des joueurs. Alors avertissement dans l'action de jeu, bon, on dit trop rien. L'avertissement pour insulte et choses comme ça, c'est systématiquement des travaux d'intérêt généraux. Alors ça se conjugue comment? On vient arbitrer les petits jeunes le samedi, ou on vient les encadrer à l'entraînement, on vient donner un coup de main, on vient porter les pipettes, parce que ça aussi ça peut faire partie. Alors donc tout ça, c'est une politique qui est en place chez nous depuis déjà un petit moment, et on n'y déroge pas.
Et puis le public, comment est-il sur Bruxelles? Seymour, il est nombreux, il est enthousiaste. C'est facile de les doubler entre deux stades comme ça.
Disons qu'effectivement, il y a nos vieux supporters de longue date qui sont toujours présents. Je ne vais pas vous cacher qu'on avait un petit peu plus de monde quand on joue en excellence au niveau senior que quand on joue en première division ou dans les divisions inférieures. Mais bon, on a toujours nos adeptes. Et puis là, je me suis rendu sur un match féminin où j'ai trouvé que les tribunes étaient relativement bien garnies. C'est vrai que l'équipe féminine a donné un souffle nouveau sur le club, une bouffée d'oxygène. Et je pense que les gens qui sont dans les tribunes apprécient beaucoup le jeu. Alors je pense que le regard de même des joueurs masculins, parce que j'ai cru croiser dans les tribunes certains joueurs seniors, certains joueurs 18 ans, ont pu apprécier les gestes de leur de leur partenaire féminin.
Comme quoi, on regarde le foot différemment.
Tout
hein,
à
le
fait,
foot féminin
tout à
différemment
fait.
Maintenant. Hein. Ouais, il y a plus l'esprit curieux, il y a l'esprit du spécialiste maintenant. Hein.
Et moi, pour avoir regardé les filles il y a 2 ans où c'était un football un peu rudimentaire, je peux vous avouer que là, j'ai vu des phases de jeu et Nolwenn en faisait partie. Des balles en profondeur, bien placées, bien amorties. Le travail effectué ces 3 dernières années est quand même relativement concluant et je leur souhaite une saison des plus méritantes.
Allez, avant d'envoyer la pub, la pause musicale, hein, parce que la pub c'était au début de cette émission, très brièvement les résultats de la 16e journée de championnat. Le Mans a battu Nancy 2-1, victoire, ça va pas les arranger, hein, de Caen, donc enfin victoire de Caen au Paris Saint-Germain 1-0, donc ça va pas arranger les affaires du PSG, on est presque au bord de la crise maintenant. Hein. Donc match nul entre Lille et Marseille 1-1, les Marseillais, bah, ça les remonte un peu quand même. Hein. Ensuite, donc Auxerre qui va gagner à Metz 1-0, là aussi ça va pas faire les affaires des Lorrains, victoire de Lens donc à Sochaux 2-0, et puis deux autres matchs nuls sur 1-1, Lorient-Saint-Etienne et Monaco-Nice, donc le derby du Sud. Aujourd'hui à 18h, il y a un autre derby Bordeaux-Toulouse et puis ensuite Valenciennes-Rennes et donc à partir de 20h55 Lyon reçoit Strasbourg. Alors on fait la pause musicale et puis on parle très brièvement donc ensuite de ce championnat. Allez, on y va. Alors on va continuer à être bavard, hein, Bono, un petit mot, le championnat de foot, hein, on a dit ça va pas améliorer les affaires du Paris Saint-Germain. Ça vous passionne les matchs de Ligue 1? On dit qu'on a un championnat très moyen.
Bah, il faut dire que moi autant j'étais intéressé sur les championnats des années allez on va dire les années vertes. C'est vrai que là, l'argent ayant un petit peu parasité le monde du football professionnel, pour moi, je m'y intéresse de moins en moins. Ouais, je préfère aller voir les enfants le samedi après-midi sur les terrains.
Alors aujourd'hui, il y a quand même 2 événements importants. Hein. C'est l'attribution du Ballon d'Or. C'est un secret de polichinelle. Hein. C'est le Brésilien Kaká qui va recevoir donc dans Téléfoot son Ballon d'Or. Et puis cet après-midi, les tirages au sort, hein, de la phase finale de l'Euro, hein, 2008. Hein. Ça sera un peu plus dur pour l'équipe de France que pour les éliminatoires du Mondial 2010. Hein.
Ben, je pense que bon, on va souhaiter bonne chance à notre équipe de France. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu le cocorico au coin de l'œil. Bon, on leur souhaite un bon parcours, même si ça a été un petit peu chaotique pour les éliminatoires. Mmh. Bon, on va quand
enfin,
même.
Souvent, quand c'est chaotique pour les éliminatoires, ça se passe bien dans les phases finales.
C'est ce qu'on va se dire et on leur souhaite bonne chance.
Ouais. Alors, il y a encore des rendez-vous importants en attendant ce tour de foot, hein, concernant la section de Beausimour.
Nous avons, on voulait faire passer quelques petits messages. Nous travaillons en partenariat avec une association qui aide un village au Maroc. Et pour ce faire, on a une petite plaquette et avec des interlocuteurs, car on récupère des affaires, hein, des chaussures, des protège-tibias, des maillots. On leur a donné un jeu de maillot complet et c'est ce qui leur a fait gagner leur premier tournoi. Est-ce que c'est un signe du destin? Pour ce faire, c'est un partenariat pour une aide sur le village de Sidi Binzarm au Maroc. Et c'est monsieur Jean-Luc Parvillier qui est l'interlocuteur sur la commune de Brice, travaillant en partenariat aussi avec la mairie de Viry-Châtillon. Donc nous, on est partie prenante dans cette affaire. Et puis, au terme de cette émission, je vous donne rendez-vous sur notre site internet.
J'y suis allé, c'est très bien fait.
www.ebl.free.fr, où vous retrouverez certainement cette émission en boucle. Mmh. Et puis, un tas d'informations, des photos, tous nos souvenirs et puis toutes les rencontres qu'il y a à avoir. Et toutes les infos. Ce site est dûment géré par Philippe Bell, quelqu'un que tu as peut-être croisé aussi, notre internaute de luxe.
Très bien. 30 secondes pour finir. Les couleurs du club, c'est bleu maintenant.
C'est toujours bleu, ciel et blanc.
C'était blanc et rouge.
C'est toujours bleu, ciel et blanc. Si vous voyez le maillot de l'Argentine, joue avec les couleurs de l'Argentine, mais ce sont les couleurs de l'entente Brice Limour.
Très bien, merci d'être venu à notre micro et puis bonne suite, bonne saison. Hein, et puis à très bientôt. Et puis donnez-nous de vos nouvelles.
C'est nous qui vous remercions de nous faire venir de manière régulière sur l'antenne, car vous voyez, on a beaucoup de choses à dire et on pourra revenir une nouvelle fois. Je pense qu'on aura encore un tas d'infos à vous donner.
Très bien, allez, on vous laisse avec Radio Village. On aura 3 tribunes sport dans les 3 prochaines semaines, 9h et 11h. On vous souhaite un bon dimanche. N'oubliez pas, il y a un beau dimanche de foot avec le Ballon d'Or et les tirage au sort de l'Euro. Salut.
Bon dimanche, RVE, il est 11h.